Il est 12h30 à Paris, une heure de moins en temps universel.
Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour RFI à midi, 2 heures d'actualité internationale, un tour du monde avec nos invités, nos correspondants, nos reportages et une première étape tout d'abord à Paris où les alliés de l'Ukraine se réunissent de nouveau pour finaliser des garanties de sécurité pour Kiev. Volodymyr Zelensky est sur place, il a rencontré son homologue français Emmanuel Macron hier. Alors que sur le front, l'Ukraine a perdu du terrain ces dernières semaines dans la région russe de Koursk, où notre journaliste Anissa El-Jabri a pu se rendre.
Dans Soudja, au détour d'une rue, quelques corps sans vie de soldats ukrainiens, des poules, des chats, des chiens qui errent. L'odeur de brûlé des bâtiments incendiés par endroits prend encore à la gorge. Le nombre de bâtiments épargnés est infime.
Un reportage exceptionnel à écouter dans environ 3 quarts d'heure. Dans l'actualité également, les marchés encore bouleversés par la dernière annonce de Donald Trump.
And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States.
Un détroit de douane supplémentaire de 25% pour les voitures qui ne sont pas construites aux États-Unis. Voilà ce que promet le président américain. Inquiétude de la part des pays asiatiques, mais aussi du Mexique, du Canada ou encore des Européens. On va en parler notamment avec notre invité Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Ce sera vers 12h15 en temps universel. Dans une heure, Afrique Midi, on reviendra notamment sur la condamnation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à 50 prisons fermes. Et puis l'actualité sur le continent américain à partir de 13h, temps universel. On sera avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste pour l'actualité haïtienne. Et puis on reviendra également sur les inondations à Bahia Blanca en Argentine. Elles seraient bel et bien liées au réchauffement climatique. C'est en tout cas ce qu'indique un réseau de scientifiques international. Voilà pour le programme.
RFI, l'Europe à midi.
Paris accueille donc un nouveau sommet des pays alliés de l'Ukraine, 3e réunion du genre en un peu plus d'un mois, entre une trentaine de délégations de pays européens essentiellement, mais aussi avec le Canada, l'Australie et la Turquie. Les dirigeants sont réunis depuis 2 heures maintenant au Palais de l'Élysée. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
Absent des négociations engagées par l'administration Trump avec Moscou et Kiev, eh bien les alliés de l'Ukraine vont donc tenter de finaliser un plan de soutien à court terme à l'armée ukrainienne.
Oui, cette réunion intervient sur fond d'intense activité diplomatique américaine, 2 jours après l'annonce de la conclusion d'accord sur un cessez-le-feu en mer Noire sous l'égide des États-Unis. L'Élysée fait d'ailleurs savoir qu'Emmanuel Macron s'est entretenu avec Donald Trump avant ce sommet. Le président français a aussi tenu ce matin une brève réunion avec Volodymyr Zelensky et le premier ministre britannique. Avant d'arriver à Paris, Keir Starmer a fait publier un communiqué pour dénoncer, je cite, les promesses creuses de Vladimir Poutine sur un éventuel accord de cesser le feu et pour rappeler que la Russie poursuivait ses bombardements massifs la nuit dernière. Ils ont fait plus de 20 blessés selon les autorités ukrainiennes. Bâtir une paix solide pour l'Ukraine et l'Europe, c'est avec ce mot d'ordre inscrit en fond que les 31 participants ont posé pour la photo de famille tout à l'heure dans le jardin d'hiver, cette pièce qui jouxte la salle des fêtes où se déroule le sommet. Il y a là la plupart des Européens, à l'exception des dirigeants hongrois et slovaques, présents l'Italienne Giorgia Meloni, l'Allemand Olaf Scholz ou encore le vice-président turc Sevdet Yılmaz. Volodymyr Zelensky a posté cette photo sur les réseaux sociaux, accompagné de ce message « L'Europe peut se défendre, nous devons le prouver ».
Les précisions d'Anastasia Becchio, le président ukrainien qui est donc arrivé à Paris dès hier, accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky a ensuite accordé dans la soirée une interview à plusieurs médias européens. Et il a entre autres effectivement répété ce message « L'Europe et les États-Unis doivent faire front commun face à Vladimir Poutine ».
Il a peur de l'unité de l'Europe et des États-Unis et c'est la raison pour laquelle son action principale et sur la séparation et l'affaiblissement de cette union. Et je pense que dans une certaine mesure, il réussit, pas totalement, Dieu merci, mais il a enregistré des succès. Ensuite, il appuie sur l'Union européenne à l'intérieur. Et nous voyons aussi qu'au sein de l'Union européenne, il y parvient partiellement par le biais de la position de la Hongrie. Et je pense que le fait que parfois la Hongrie bloque les sanctions contre la Russie, bloque la pression sur la Russie, essaie de sortir de la liste des sanctions des oligarques russes, c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Les propos de Volodymyr Zelensky, alors que sur le front, un haut responsable ukrainien fait savoir auprès de l'agence France-Presse qu'il n'y a pas eu de frappe ni de la part de Moscou ni de la part de Kiev sur les infrastructures énergétiques depuis deux jours, comme le prévoit le récent accord approuvé par les deux camps. Dans ce contexte, en Estonie, le Parlement lui vient de voter à une large majorité un amendement à la Constitution. Les résidents permanents étrangers venus de pays hors de l'Union européenne ne pourront plus voter aux élections municipales et cela va principalement concerner les citoyens russes et biélorusses. C'est une mesure qui s'inscrit dans une tendance plus globale de restriction des droits de ces citoyens. Correspondance de la correspondante de RFI dans la région, Marielle Vituro.
Pour les 61 députés qui ont initié cet amendement, il s'agit d'une question de sécurité. Le droit de vote doit être réservé aux citoyens qui partagent les mêmes valeurs démocratiques que l'État estonien. Cette décision va donc affecter les 80 000 citoyens russes qui résident en Estonie, un chiffre en légère baisse ces dernières années. De manière générale, les droits des citoyens russes et biélorusses, environ 200 000 dans une région de 6 millions d'habitants, sont de plus en plus restreints. En Estonie, ils ne peuvent plus être détenteurs d'un permis de port d'armes. En Lituanie, s'ils ne sont pas résidents permanents, les ressortissants russes ont pour interdiction d'acquérir des biens immobiliers. Un projet de loi prévoit aussi de pouvoir annuler leur permis de résidence s'ils se rendent plus d'une fois par trimestre en Russie ou en Biélorussie, pour ne pas risquer d'être recrutés par les services de renseignement. Les pays baltes veulent tout faire pour minimiser la présence de personnes déloyales acquises à Moscou, considérées ici comme la menace principale. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Les questions de défense et de guerre en Ukraine, on va en reparler dans quelques minutes dans un monde de tech. Mais d'abord, face à tous ces enjeux sécuritaires qui sont omniprésents, la lutte contre le réchauffement climatique sera-t-elle, elle, reléguée au second plan? Pour contrer ce danger réel, et bien des représentants du monde entier se sont réunis ces derniers jours à Berlin. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour.
C'était en quelque sorte le coup d'envoi de la diplomatie climatique de cette année.
Oui, cette réunion annuelle s'appelle le dialogue de Petersberg sur le climat, créé par l'ancienne chancelière Angela Merkel en 2009 pour préparer justement les COP à venir et leur donner plus de chances de réussir. Alors, après le retrait fracassant des États-Unis de l'accord de Paris, l'objectif cette année était bien sûr de montrer l'unité du reste du monde. Et selon Christoph Balz de l'ONG German Watch, qui a participé aux négociations, eh bien l'ambiance.
Elle a été étonnamment bonne. Les 40 ministres qui représentent au total 190 pays étaient tous d'accord sur un point. Si un acteur se comporte en pilote fou en matière de politique climatique, nous les autres, nous coopérons d'autant plus, renforcerons le multilatéralisme et accélérerons la protection du climat plutôt que de la ralentir. C'était un signal très fort.
Et pourtant, Stéphanie, la question, elle se pose toujours, comment organiser l'action climatique sans la première puissance économique mondiale des États-Unis, qui sont aussi l'émetteur historique des gaz à effet de serre?
Oui, en effet, personne ne se fait d'illusions. Sans les Américains, une responsabilité encore plus accrue reviendra aux autres grands pollueurs, et notamment la Chine, l'Union européenne et l'Inde. Les pays seront maintenant jugés sur leurs actes. Pour cela, ils doivent soumettre d'ici septembre leur nouveau plan climat à l'ONU, plan qui fixe leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Au sein de l'UE, justement, cet objectif fait encore débat. Réduire leurs émissions de 90% d'ici 2040 par rapport à 1990, tous les États ne sont pas d'accord.
Alors que les ambitions climatiques reculent dans plusieurs pays, les participants aux négociations à Berlin ont tenté de mettre en avant les avantages économiques de la lutte contre le réchauffement climatique.
Oui, les énergies renouvelables boostent la croissance, créent des emplois et réduisent les factures d'énergie, a déclaré Antonio Guterres, par exemple. Un argument qui pourrait aussi peser aux États-Unis, espère Christoph Balz de German Watch.
Près de la moitié des États américains se disent encore membres de l'accord de Paris. Et puis, n'oublions pas que lors du premier mandat de Donald Trump, sa tentative de faire redémarrer le charbon a été un échec cuisant, parce que le charbon n'était tout simplement plus compétitif. Aujourd'hui, il faut espérer que la dynamique mondiale en faveur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique soit suffisamment forte pour s'imposer également aux États-Unis et ainsi au moins freiner les actions destructrices de l'administration Trump.
Eh bien, reste pourtant l'épineuse question de l'avenir des énergies fossiles. Dans son discours d'ouverture, le nouveau patron de la COP 30 de Belém, le diplomate brésilien André Correia do Lago, ne les a pas du tout mentionnés.
Les explications de Stéphanie Schuller, merci beaucoup.
RFI Midi.
Les Européens et le reste du monde qui vont aussi devoir faire face à la nouvelle offensive lancée par Donald Trump dans la guerre commerciale qu'il mène. Le président américain veut désormais imposer 25% de droits de douane supplémentaires à tous les véhicules qui ne sont pas produits aux États-Unis. Ces droits de douane rentreraient en vigueur mercredi prochain, comme ceux plus généraux déjà annoncés auparavant, et sans oublier la menace de taxes de 200% sur les alcools. Pierre Benazet, vous êtes en direct de Bruxelles. Autant dire que les Européens sont en colère et très inquiets.
Oui, très inquiet parce que plus d'un cinquième de l'ensemble des exportations automobiles européennes partent vers les États-Unis. Les plus inquiets, c'est évidemment les constructeurs, en particulier la Fédération automobile allemande. Son patron parle d'un signal funeste, même son de cloche de la part de son homologue en France. Il estime, lui, qu'il n'y aura que des perdants. Et d'ailleurs, pour les constructeurs européens, les cours en bourse, vous l'avez dit, ils ont d'ailleurs largement commencé à dégringoler ce jeudi. Côté politique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, regrette la décision. Elle préconise des négociations. Et cette réaction, publiée avant même la fin de l'annonce de Donald Trump, montre une fébrilité certaine. Elle montre aussi que l'UE s'attendait à être frappée. Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, était à Washington ce mardi pour tenter une conciliation avec les États-Unis. Ça n'a apparemment pas marché.
Alors cette idée de nouvelles négociations, c'est un peu la position par défaut de la Commission européenne. Mais est-ce qu'elle est vraiment réaliste face à un Donald Trump qui multiplie, Pierre, les menaces de droits de douane et semble clairement déterminé à passer à l'acte.
Certains ici espéraient que l'objectif du président américain, ça serait de forcer un nouvel accord économique global sur commerce et taux de change. Mais devant un Donald Trump imprévisible, l'Europe doit maintenant trouver d'autres solutions. Le commissaire au commerce, Maroš Šefčovič, est d'ailleurs actuellement en Chine. Mais le danger peut aussi venir de là, puisque les Européens craignent d'être inondés de véhicules chinois qui n'auront plus de débouchés américains, à l'heure aussi où le secteur automobile européen est déjà en crise et la Commission a de fait, pour parlait, déjà renoncé à imposer cette année des amendes aux constructeurs qui ne respecteraient pas les objectifs de réduction d'émissions de CO2.
Pierre Benazet depuis Bruxelles. Alors effectivement, comment faire? Quelles conséquences? Eh bien, on reviendra sur ces nouvelles taxes annoncées par Donald Trump avec notre invité dans une demi-heure environ, donc avec Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Il est 12h42 à Paris et à Bruxelles. Les titres de la presse européenne en ce jeudi 27 mars 2025 avec encore beaucoup d'articles concernant justement la défense et ce sommet à Paris avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, accueilli, on l'a dit, dès hier par son homologue français. Emmanuel Macron devenu personnalité internationale préférée des Ukrainiens. Un curieux retour en grâce à l'autre bout de l'Europe, s'étonne Libération. Fin février, ils étaient 77% à approuver l'action du président français. Après la trahison américaine, Macron est perçu comme le principal allié de l'Ukraine, dit un écrivain désormais soldat sur le front, cité par le quotidien français, même si d'autres témoignages attendent désormais des actes. Dans ce contexte, l'Espagne, elle se pose aussi la question du financement de sa sécurité. Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé hier un plan de défense nationale avant l'été. Un plan sans chiffres, sans budget, sans calendrier précis, souligne El Mundo, et sans majorité au Parlement. Le monde s'effondre, les citoyens se tournent vers leurs institutions en quête de réponses. Et ce qu'ils entendent, regrette le quotidien espagnol, c'est le bruit de fond de la discorde entre le gouvernement et l'opposition. En Allemagne, les journaux titrent ce matin sur les nouveaux droits de douane de 25% que Donald Trump veut imposer. On vient de l'évoquer. Et Der Spiegel continue aussi d'évoquer la fuite des plans militaires américains avec l'invitation par erreur de ce journaliste dans une conversation sur la messagerie Signal. Le magazine allemand va plus loin et révèle une nouvelle faille. Après de simples recherches sur Internet, Der Spiegel a dit avoir trouvé des numéros de téléphone et des adresses mail de certains responsables américains. Cela concerne notamment le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz et le secrétaire à la défense Pete Hegseth. Une faille qui aurait pu permettre, selon Der Spiegel, à des agents étrangers d'espionner certains échanges. Grâce à Donald Trump, les riches américains redécouvrent les banques suisses, se réjouit en tout cas l'OTAN. Après plusieurs difficultés concernant certaines banques, des américains fortunés en désaccord avec la politique de leur président ou bien désireux de s'adapter à un monde multipolaire s'intéressent à nouveau à la possibilité de déposer une partie de leurs avoirs en Suisse. C'est donc à lire dans le temps.
RFI.
La France à midi.
Et puisqu'on parle de la presse européenne, c'est une première mondiale en Italie, un journal créé par une intelligence artificielle. C'est le pari fait par le quotidien libéral Il Folio. Depuis le 18 mars et pendant un mois, un supplément entièrement généré par l'IA est disponible dans les kiosques. C'est une façon pour le journal de sensibiliser à cette technologie. Reportage d'Olivier Bonnel.
Comme chaque matin, Marina et Stefania, journalistes à Radio Vatican en italien, ont préparé leur revue de presse. Et comme depuis plusieurs jours, elles ont feuilleté Il Folio et son supplément inédit de 4 pages, une vingtaine d'articles, tous écrits avec l'aide de ChatGPT. Marina nous décrit le journal.
Ça, c'est l'édito fait par l'intelligence artificielle. Défense de la liberté, soyons sérieux. Pourquoi un électeur de droite italien devrait avoir peur de la droite trumpienne? Et là, on a l'éditorial de Claudio Serrazza. Une droite libérale, anti-Trump, pro-Europe et non complotiste. Les thèmes sont les mêmes, mais la façon de les traiter est complètement différente.
Pour Stefania, l'exercice d'une revue de presse avec des articles entièrement rédigés par un algorithme est une première dans son métier.
C'est un peu troublant. Savoir qu'un article a été écrit par une intelligence artificielle et pas par un de tes confrères, c'est un peu désarmant. Mais c'est aussi une confrontation intéressante pour comprendre certaines limites. L'IA, tout le monde le dit, peut être une grande aide, mais en même temps, c'est un frein à la créativité, à la connaissance, à tout ce qu'on sait. Quoi qu'il en soit, c'est un débat utile et cette expérience du Folio sera sûrement positive.
Qualcosa di positivo.
Claudio Cerasa, le directeur du Folio, est à l'origine de cette initiative pas comme les autres. Nous le retrouvons derrière son bureau, vérifiant la mise en page des derniers papiers du jour, des articles sur Vladimir Poutine, Elon Musk ou encore l'économie italienne, entièrement générés par l'IA. Il explique la genèse de ce projet.
Pourquoi on s'est lancé? Pour deux raisons. La première, c'est que l'on est un journal optimiste qui mise sur l'innovation et nous n'avons pas peur de l'avenir et on doit regarder l'avenir en face. La seconde raison est que l'on est un journal qui peut se le permettre. Un quotidien créatif avec des articles originaux et on a la prétention de penser que l'intelligence artificielle ne peut être aussi forte que nous.
Tous les jours, à 18h, 2h avant le bouclage, le patron du Folio demande à ChatGPT de lui créer des articles. Il lui fournit les thématiques, les angles de traitement et quelques indications de style et laisse faire la machine.
La charte graphique est la même. Ce qui change, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas les signatures. Chaque article est reconnaissable car il est mentionné qu'il a été généré grâce à l'intelligence artificielle. Il y a un éditorial sous le titre, les informations générales que l'on met au centre de la page et une explication du projet placée sous des brèves. Et en une, 4 articles sur un sujet du jour.
L'an dernier, Il Folio avait déjà glissé quelques articles créés par l'IA dans ses pages, invitant les lecteurs à les débusquer, ceux qui parvenaient à gagner un abonnement et une bouteille de champagne. Mais cette fois-ci, rappelle Claudio Cerasa, Il Folio veut aller plus loin, lancer les débats sur le rôle de l'intelligence artificielle dans nos vies.
Dans chaque numéro, on demande à l'IA de simuler un débat entre un intellectuel progressiste et un conservateur sur de grandes thématiques. Par exemple, dans le premier numéro, on lui a demandé un débat sur l'idée de créer un journal avec de l'intelligence artificielle. Dans les prochains numéros, il y aura des débats sur les questions sociétales comme l'euthanasie, l'avortement, le cannabis. Ce qui est intéressant, c'est que l'on demande à l'intelligence artificielle de se critiquer elle-même. Et l'IA dit clairement qu'elle ne peut pas dépasser l'intelligence humaine.
Cette innovation éditoriale est un succès pour Il Folio, dont les ventes en kiosque ont bondi de 60% les premiers jours. Un débat sur l'IA et ses enjeux aura lieu avec les lecteurs du journal au terme de cette expérimentation d'un mois.
Le reportage d'Olivier Bonnel a retrouvé dans Accent d'Europe, émission diffusée sur RFI du lundi au jeudi à 19h10 temps universel ou bien écoutée sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Et de la technologie encore et on en revient à cette guerre en Ukraine, Kiev qui dit avoir découvert de nouveaux composants électriques chinois dans les drones d'origine iranienne employés sur le front par la Russie. On en parle dans Un Monde de Tech. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
L'idée, c'est de renforcer la résistance au brouillage de ces drones achetés et copiés par la Russie.
Oui, effectivement, il s'agit des drones Shahed développés en Iran et utilisés massivement sur le front ukrainien. En gros, ça se présente comme une aile volante avec une charge d'environ 40 kg d'explosifs, un petit moteur à l'arrière et un système de navigation qui inclut un récepteur GPS afin de permettre aux drones de se diriger et de trouver les coordonnées de sa cible.
Sauf que les Ukrainiens ont trouvé la parade.
Oui, les Ukrainiens sont passés maîtres dans l'art de brouiller ces engins ou d'en prendre le contrôle à distance pour les empêcher d'atteindre leurs objectifs. D'ailleurs, l'essentiel du brouillage se fait aujourd'hui au-dessus du territoire ukrainien pour empêcher les drones russes de mener à bien leur mission. Plusieurs possibilités, le brouillage de puissance qui consiste à émettre massivement pour perturber le signal GPS jusqu'à le rendre inaudible, ou le spoofing qui consiste à s'en prendre au contenu du signal pour véhiculer des informations fausses comme la localisation ou tout simplement changer l'heure du drone. D'ailleurs, selon des sources ouvertes, plusieurs drones Shahed russes ont terminé leur vol en Biélorussie.
Alors depuis le début de la guerre, Olivier, il y a une course à l'adaptation dans les deux camps.
Oui, et les Ukrainiens sont les plus réactifs, mais les Russes s'accrochent et ils ont commencé à changer les antennes des drones Shahed pour monter des antennes à diagramme de réception contrôlée. Alors c'est un peu compliqué couramment, on appelle ça des antennes CRPA. Celles qui ont été retrouvées récemment sont fabriquées en Chine et elles comportent 16 modules de réception, ce qui rend le Shahed plus résistant au brouillage.
Et ça fonctionne comment ?
Alors l'armée de l'air ukrainienne affirme que ces modifications l'obligent à augmenter considérablement le nombre de brouilleurs utilisés pour perturber les Shahed. Pour schématiser, ces antennes servent à capter le signal du satellite russe GLONASS, le GPS russe, la constellation de satellites de localisation. Les GPS militaires utilisent une forme d'onde précise et en multipliant les récepteurs, on peut déterminer d'où vient l'onde. Un signal GPS qui vient de l'espace, il est lointain et il est relativement faible. Un brouillage GPS, lui, il vient du sol, il est proche et il est puissant. Via quelques algorithmes et après traitement, cette antenne va permettre d'exclure les signaux indésirables. En clair, le système va faire confiance à tout ce qui vient d'en haut, tout ce qui vient de l'espace. Et si un brouilleur est en dessous d'un certain horizon, son signal sera éliminé ou atténué. Donc ça ne viendra pas vraiment perturber le drone.
Sauf qu'Olivier, certains réfléchissent déjà à des solutions pour contrer la contre-mesure russe.
Oui, par exemple, un brouilleur aéroporté, accroché à un ballon ou un drone de longue endurance pour faire du brouillage, pour faire croire à un satellite. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les drones filaires, utilisant une fibre optique qui va se dérouler sur plusieurs kilomètres derrière l'engin, commencent à envahir le champ de bataille, car le fil peut physiquement se couper, mais l'ensemble est insensible au brouillage.
Olivier Four pour Un Monde de Tech. La vitalité et la créativité de la ville de Dakar, mise à l'honneur jusqu'à dimanche au festival Afrique Capitale organisé à Paris en France. Et pour l'occasion, la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise Germaine Akoni est invitée. C'est elle qui a fondé l'École des Sables, une école de danse unique en son genre sur le continent africain. Elle est considérée comme la mère de la danse contemporaine africaine. Germaine Akoni est au micro d'Isabelle Chenet.
Bonjour Germaine Akoni.
Bonjour.
Vous êtes une référence de la danse, vous venez ici à Afrique Capitale aussi pour donner une masterclass, vous avez donné votre nom à une technique de danse qui mêle la danse contemporaine occidentale et les danses africaines. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à cette jeunesse, à ces jeunes danseurs justement que vous rencontrez ?
La fierté d'être soi. Parce que ma technique c'est l'élégance, c'est l'enracinement, c'est la fierté. C'est pas beaucoup de temps, mais en 3 heures, je crois que je peux leur insuffler cette générosité aussi du donner et du recevoir et d'échanger entre eux, d'être solidaire. On a besoin de cette solidarité dans ce monde actuel. Et vous savez, le monde a besoin de beauté et l'art en est l'instrument. Ma danse, ma technique, c'est le reflet de la nature. On va avoir le respect de la nature, leur apprendre ce que c'est que le nénuphar. Le nénuphar, un mouvement que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que la tête qui bouge représente la fleur, les bras, ce sont les feuilles qui sont étalées sur l'eau, le corps, ce sont les racines. Et je vous assure, quand on le fait consciencieusement. C'est aussi une méditation, on se sent venir dans l'eau.
Alors il y a 5 danseurs issus des diasporas africaines qui font une résidence de formation et ensuite direction l'école des sables, cette école que vous avez inaugurée en 2004, qui est unique en son genre, qui est au sud de Dakar. Qu'est-ce qui va se passer lors de ces restitutions?
Quand il y a des restitutions, mais c'est extraordinaire ce qui se passe à Toubab Jalao, à 50 km de Dakar. Ces jeunes, quand ils vont venir, ils vont être en contact avec les gens du village pour aussi échanger avec eux. Et nous sommes une fenêtre ouverte sur le monde. Cet échange aussi, ça leur fait grandir et ça leur fait voir à ces jeunes qui vont venir aussi un autre bout du monde. Le partage est essentiel dans ce monde actuel.
Quand vous avez démarré à la fin des années 60, vous êtes venu vous former en France, notamment vous avez vécu en France, il n'y avait pas de danseuse noire dans la danse classique.
En tout cas, j'étais la seule noire dans cette école. J'ai été très bien reçue par Marguerite Lamothe. Mais justement, cette confrontation avec la danse classique m'a permis de voir que mon corps était différent. La technique a connu. Et pour moi, c'est le reflet de la nature puisque je fais la grenouille, le baobab, le capoquier. Vous savez, le capoquier qui est le fromager, c'est le symbole de ma technique. Le fromager est énorme, avec des racines qui s'envolent vers le ciel. Ces plantes, des influences d'ailleurs, mais de rester soi.
Dans le cadre d'Afrique Capitale, il va y avoir aussi un documentaire qui va être diffusé, consacré à votre parcours. Est-ce qu'il raconte aussi d'où vous vient cette passion de la danse?
Ma grand-mère était une prêtresse Yoruba, danseuse. Et quand je suis née, ils ont dit « Yatunde, la mère est revenue ». Et je pense que c'est elle qui m'a beaucoup inspirée dans le travail, dans ma créativité.
Vous, Germaine Akoni, vous continuez à 80 ans à toujours danser.
Ben oui, j'ai un don de Dieu. Et c'est une chance que je continue à cultiver, à danser, à transmettre.
Merci beaucoup, Germaine Akoni.
Germaine Akoni, interrogée par Isabelle Chenu dans le cadre du festival Afrique Capitale organisé jusqu'à dimanche à Paris. Pour l'instant, il est presque midi en temps universel. Dans une grosse demi-heure, ce sera le retour de l'actualité africaine sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumay.
À la une ce midi.
Boualem Sansal, condamné ce matin à 5 ans ferme à Alger. L'écrivain franco-algérien était accusé, entre autres, d'atteinte à l'intégrité du territoire. La France, qui déplore ce verdict, demande une issue rapide, humanitaire et digne pour l'auteur. Et puis au Soudan du Sud, le vice-président Riek Machar a été arrêté hier soir par les forces loyales au président Salva Kiir. L'ONU dit craindre de voir le pays retomber dans un conflit généralisé.
Un rendez-vous donc à 12h30, temps universel pour Afrique Midi. Pour le moment, un nouveau journal international arrive dans quelques minutes, mais d'abord une petite pause musicale. Manifest and the Cavemen and Flea. Puff puff dans la playlist de RFI.
And I get waiting to talk, I get waiting to talk. He no gree me talk, he no gree me on, he no gree me talk. Puff, 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 so keep the fire burning.
Sawa.
Questions, likes and impressions. Problem no, they finish Helsinki, I'm guessing. Boys, they use humor to cover up. That currently currency low and dollar up. No sweetness here while my auntie talk. But I'm cool with the palmy pants
he
and socks. So I chuck and move. Quiet, no be fool. So last.
Puff, Manifest and the Cavemen and Flea sur RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité internationale.
Puff,
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Le 7 octobre 2023, Dror Mishani était en France lorsqu'il a appris les attaques en Israël. De retour dans son pays, il a consigné ses réflexions sur ce conflit sans fin. Un témoignage intitulé « Au ras du sol, journal d'un écrivain en temps de guerre » dont il viendra parler en français dans l'émission.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.